heroes never die.
Nerf this.
Salut tout le monde. Oh là là, et le générique se relance. C'est bon. Salut tout le monde. Altiron au micro, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Nerf This Podcast, l'épisode 75, l'épisode qui va lancer cette saison 3 après les deux podcasts de preview qu'on avait fait. Il est temps de se lancer dans le rythme hebdomadaire de podcast et on va commencer évidemment par présenter l'équipe en place, l'équipe que vous connaissez bien si vous êtes là depuis longtemps et sinon, eh bien voilà, ils sont là exprès pour vous chaque semaine avec d'abord Atao. Salut Atao.
Salut Alti, salut Shabba, j'espère que vous allez bien et chaud pour cette nouvelle saison.
Eh hey, yeah, trop bien, j'adore son enthousiasme, tu es vraiment quelqu'un de sympathique.
Ouais, une bonhomie légendaire.
On dirait, quelle horreur, on dirait une interview, un entretien de recrutement dans une start-up. J'adore ton attitude. Et Shabba donc, évidemment, Shabba qui est toujours là, salut Shabba.
Salut, moi aussi je suis ravi, hein. J'essaie d'être aussi bonhomme que Katao, c'est pas facile. Hein.
C'est pas facile, le bonhomme est grand. Messieurs, donc on l'a dit, on va faire une petite preview des premiers matchs de cette semaine parce qu'on en avait envie et parce qu'il est temps de se mettre dans le bain. Et on va quand même revenir un tout petit peu d'abord sur les news qui sont sorties depuis qu'on a fait notre podcast de preview, quelques transferts, le Hero Pool, on va parler de ça. Et puis je crois que ce sera tout, mais ce sera déjà pas mal pour commencer. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts?
Chaud.
Ouais.
Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. On va ouvrir avec les petits transferts qui ont eu lieu depuis la dernière fois. En l'occurrence, on va commencer par les Atlanta Reign. Atlanta Reign qui ont signé deux nouveaux joueurs pour la saison 3. Alors, il y en a un qui était déjà là, qui est parti en two-way contract et puis qui est revenu. En l'occurrence, c'est Kodak, le support allemand que vous aviez peut-être vu, qui s'était assez illustré à la Coupe du Monde à Paris. C'était déjà en 2018. Mon Dieu, que tout cela remonte. Et donc, Kodak, si je dis pas de bêtises, qui a fait l'équipe Académie d'Atlanta, l'équipe Académie d'Atlanta et qui est revenu. Voilà. Et ils ont également recruté Fire. Alors Fire, il était où lui?
Envy.
Et oui, Team Envy, bien sûr, Team Envy qui a écrasé les contenders NA West en 2019 avec deux victoires. Voilà, messieurs, petit renfort du côté d'Atlanta qui était qui avait déjà Maza et Dogman au poste de support, mais on essaie de combler un peu l'effectif au maximum. On sait que la saison va être longue et du coup on remplit un peu les trous qui restent. Qu'est-ce qu'on pense de ces moves, tiens, Shabba?
Pour Fire, c'est très très intelligent parce que le joueur est bon, il a convaincu, il a fait le tour en contenders. Donc à l'image de son collègue Jaru qui est parti chez Gladiators, c'est bien qu'il trouve une porte d'entrée en Overwatch League via Atlanta. C'est très bien pour la structure parce que du coup pour les deux joueurs du coup, c'est très très bien de pouvoir doubler les postes. On l'a dit et répété, la saison va être longue. Donc s'il y a le moindre pépin, on sait qu'il y aura un backup, parce que deux supports, c'est quand même un petit peu léger. Donc c'est des choix intéressants. Kodak, qui a participé au très très bon run d'Atlanta Academy aussi sur le Gauntlet. Donc ouais, c'est des choix cohérents, hein. c'est très très bien.
Atao, tu pourras nous faire les interviews de Kodak en allemand, du coup, c'est bien.
Aucun problème, je pourrais le faire sans souci.
Sehr gut.
Impressionnant.
J'allais te demander ton avis à toi aussi, du coup, si tu es
mon avis, écoute, au-delà que je suis content de voir un Allemand dans l'Overwatch League, je trouve que je pense que quand même Kodak va pas avoir beaucoup de temps de jeu. Il a surtout été remarquable et remarqué sur son Zenyatta.
Ouais.
Donc, peut-être avec le système de Hero Pool qu'on va parler juste après, peut-être qu'il trouvera du temps de jeu de temps en temps, mais je le vois pas titulaire pour le moment.
Oui, ça me rappelle d'ailleurs que au moment de la Coupe du Monde, on l'avait appelé le Jonak allemand, bien sûr, à cause du Kodak et du Zenyatta.
Quelle époque.
Ah, il y avait juste la proximité dans le nom, hein. Honnêtement, il n'y avait pas grand chose de plus que le Jonak allemand, mais bon, c'était peut-être comme ça que vous vous souvenez de lui. L'autre transfert dont on a parlé, c'est celui de Crimzo, encore un support, et encore un ancien de Team Envy justement, et lui qui allait chez Dallas Fuel. Pareil, Atao, tiens, du coup c'est toi qui va commencer, un petit mot sur Crimzo chez Dallas.
Pour l'instant Crimzo, j'avoue que j'avais pas trop suivi son parcours, et je pense surtout en fait à comment on va réussir à l'implémenter dans... En fait c'est un choix logique, de toute manière on a quand même une backline solide, déjà on en avait déjà parlé lors des épisodes précédents. Et le fait de le rajouter, c'est bien pour doubler, mais pareil en fait que Kodak. Pour moi, je le vois pas avoir, pour l'instant, avoir énormément de temps de jeu. Après, en scrim, peut-être qu'il y a autre chose qui se dit, mais moi, je le vois pas avoir énormément de temps de jeu sur cette saison.
Est-ce que c'est possible qu'on ait fait venir tous ces joueurs et qu'on ait doublé les postes comme ça, justement, pour avoir deux équipes complètes en scrim interne ? Shabba, c'est une possibilité ?
Oui, c'est possible. Après, au niveau de comment ça se passe sur les sessions d'entraînement et de scrim, on n'a pas toutes les infos de comment ça tourne. Mais après, dans l'idée, pour Crimzo, c'est bien aussi pour lui. Hein. On rappelle, c'est un joueur qui a quand même fait un top 2 et un top 3 sur deux Coupes du Monde avec le Canada.
Ouais.
Donc, qui était déjà pressenti pour l'Overwatch League sur la saison 2019 et finalement, ça ne s'était pas fait. Il était resté chez Envy. Donc, bon move pour lui. Le joueur est bon, a du potentiel. Après, comme l'a dit Atao, je pense pas que ça sorte un Unco du 6 titulaire. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir un joueur solide sous le coup pour les scrims, pour suppléer tout simplement si jamais il y a le moindre souci quoi.
Donc tu fais bien de le signaler effectivement. Crimzo, vous en aviez peut-être entendu parler avant, puisqu'en l'occurrence il jouait en 2018 et en 2019 avec le Canada, mais en 2018 on s'en souvient particulièrement pour de mauvaises raisons. Voilà, c'est les seuls transferts qu'il y a eu de toute façon. Les équipes sont aujourd'hui assez complètes, sauf toujours. Ah si, Hangzhou, ils ont rajouté un peu du monde. J'étais resté dans l'idée qu'il y avait personne, mais si, ils ont rajouté un peu de monde, c'est vrai. Voilà, messieurs, il y a un nouvel élément qu'on a appris depuis qu'on a fait nos petits podcasts de preview. D'ailleurs, je viens de m'en souvenir, mais on n'avait pas parlé à l'époque du fait qu'on allait quitter la plateforme Twitch.
Et non.
Non, c'était pas informé, on n'avait pas l'info.
Et voilà. Est-ce
c'est
que
tombé une semaine après, ouais.
Et bah, on peut peut-être en dire un petit mot tant qu'on y est, non ?
Allez.
C'est pas comme si tout le monde en avait parlé, mais...
C'est l'intérêt d'avoir un podcast et nous, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais tiens, Shabba commence.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Vas-y, Shabba, lâche-toi.
En fait, moi, ça ne changera pas ma vie, pour le coup. Je comprends que ça embête des gens sur l'expérience au niveau du visionnage. C'est vrai qu'on perd quand même quelque chose de type Command Center qui était très intéressant pour avoir les points de vue des joueurs. Bon, après, il y a toujours le viewer in-game qui normalement sera disponible dès le lancement, normalement. Mais ouais, il y a quelques features qui vont manquer. Après, bon, bah, s'il y avait plus d'argent proposé par YouTube, s'il y avait vraiment un truc qui allait pas et que Blizzard s'est engouffré dans une brèche, bah, pourquoi pas. Pour le moment, je vois pas de raison énorme de dénigrer tout ça. J'attends surtout de voir comment ça va se dérouler parce que on sait pas qu'est-ce qui va être fait autour de ça. On sait juste que ça va être diffusé sur YouTube. On sait pas s'il y aura des à côté, s'il y aura un pass, s'il y aura des add-ons, enfin.
Ouais,
à voir.
Tu le mentionnes, on l'a pas trop dit, peut-être que tout le monde est déjà au courant, mais au cas où, on rappelle. Effectivement, l'Overwatch League ne sera plus diffusé sur Twitch, mais sur YouTube Gaming dès la saison qui arrive là. Et surtout, en fait, c'est tout Blizzard qui va diffuser son contenu e-sport sur YouTube Gaming. Parce qu'il y avait un gros chèque de YouTube, le chiffre qui circule c'est 150 millions de dollars à la clé, et que dans ces conditions-là, bon bah Blizzard a sauté sur l'occasion où Twitch n'aurait pas, ne se serait pas aligné là-dessus. Et oui, c'est vrai que ça change un peu l'expérience utilisateur. Il y a la question des récompenses in-game. Enfin vraiment, si vous regardiez Overwatch League pour les récompenses in-game, c'est que vous aimiez pas tant le jeu que ça. En tout cas, voilà, ça faisait un petit plus certes, mais c'est peut-être pas que pour ça que tu regardes. Toi, Tao, ton avis sur le passage à YouTube Gaming ?
Je crois que je passe plus de temps sur YouTube que sur Twitch. Donc pour mon expérience de viewer... ça change pas grand chose et je trouve que le player y aura moins de features, mais moi les features, les emotes, etc., j'utilise très peu. En vrai, les emotes, je les ai jamais utilisés, les emotes OWL,
non, non,
en
non
vrai
plus, hein.
Enfin,
quasiment features, jamais non plus.
J'ai jamais utilisé en vrai toutes les features qu'ils ont créées pour avoir des tokens, etc., pour avoir des tags. Tu sais, les tags, c'est le truc le plus obvious, mais le plus inutile de tout ce qu'Overwatch a pu créer, tu vois. Et franchement, c'est des trucs que je me suis jamais servi. Et franchement, toutes ces features-là, ça ne va pas me manquer. Et je trouve que, par contre, je suis content de retrouver un vrai player, parce que le player de YouTube est quand même très agréable pour revenir en arrière, pour regarder en accéléré. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple. On ne pourra pas faire de clips, mais moi, je ne suis pas un créateur de clips. J'en fais pas d'habitude, etc. Je ne suis pas un créateur de contenu. Donc voilà. Et pour moi, pour mon expérience de personne, j'aime bien regarder en plus dans le salon. Donc, il l'avait déjà dit dans le Live Alpha Cast. C'est vrai que... avec le Chromecast, c'est beaucoup plus pratique, YouTube.
Ah bah oui.
Donc, pour moi, je vois que du positif. Et en plus, le Command Center, En vrai, tu regardais les viewers sur le Command Center, il y avait 200 personnes qui regardaient genre la POV de Jonah, Kodri ou Jiung, quoi. Donc c'était quand même un peu obvious. Et je vois, enfin, pour moi, ils ne seront pas pressés de redévelopper un Command Center sur YouTube. Parce que en vrai, à part avoir quelques stats qui vont être données en plus, apparemment, dans les dernières news, on va en avoir un peu plus sur le site d'Overgig. Apparemment, c'est ce qui est dit. Voilà, je ne suis pas hyper pressé de retrouver un Command Center. Moi, je suis content du player YouTube qui marche bien en live. Donc voilà.
Est-ce que vous entendez quand même les critiques des gens qui disent que ça ne s'adresse plus forcément à un public de connaisseurs et que du coup, les habitués de Twitch ne viendront pas forcément sur l'Overwatch League? Oui, YouTube a une portée plus importante globalement, mais est-ce que c'est des gens qui sont très sensibles à l'e-sport et peut-être moins que sur Twitch?
Pour le coup, moi je pense pas que ce soit vraiment les gens qui aiment vraiment l'Overwatch League et qui aiment vraiment l'e-sport Overwatch feront la bascule.
Ça, bien sûr.
Je suis persuadé. Après, pour le contenu, pour le coup, pendant longtemps et même encore maintenant, quand t'as une compète par exemple qui se déroule en Asie et qui se déroule le matin, c'est des horaires qui sont pas toujours faciles à choper quand tu veux regarder les compètes. Donc les replays Twitch étant affreux, oui. Le player de Twitch est horrible pour regarder un replay. Genre vraiment, c'est pas fait inergonomique au possible. Hein. Ouais. Bah franchement, je regardais j'attendais des fois pour certaines compètes, voire certains matchs, que le replay passe sur YouTube en fait. Chaîne de VOD officielle. Ah bon, par exemple, pour League of Legends, par exemple, les matchs de ligue coréenne, j'attendais Riot mette les VOD sur leur chaîne YouTube parce que le player Twitch pue. Et que sur YouTube, il y a déjà des gens qui regardent de l'e-sport via de la VOD, en fait. Donc, ça me choquerait. Et il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent du contenu e-sport avec des frag movies, des best-of, des clips, des trucs comme ça, qui viennent de Twitch, certes, mais qui sont importés pour faire des montages sur YouTube. Donc, au final, la communauté qui regarde ça sur YouTube, pour moi, c'est quand même une communauté qui est habituée à tout ça. Et puis, oui, c'est vrai, après, la décision est là aussi pour toucher un public plus large et espérer faire grossir les audiences via ça. Donc, le move il se comprend, hein.
Attends, tu as l'air d'accord, vas-y.
Ouais, pour ajouter deux choses, pour aller dans le sens de Shabba. Deux choses rapides, c'est la première, c'est le fait qu'il y aura une meilleure qualité, parce qu'on sait que les lives Twitch sont capés à un certain nombre de bitrate, on appelle ça, donc ça veut dire le flux envoyé pour la diffusion. Et on sait que la cap, on va dire, donc le niveau maximal est plus grand sur YouTube, donc c'est-à-dire qu'on aura une meilleure qualité de stream. Donc ça, c'est cool pour les gens qui ont de la fibre. Dans un jeu où on a vite fait à tomber dans une bouillie de pixels, c'est quand même fortement agréable et moi c'est pour ça que je suis quand même assez convaincu. Et la dernière chose que je voulais dire, je l'ai oublié, donc on va passer à autre chose.
Fabuleux. Voilà, donc évidemment, on pourra suivre à partir de ce week-end sur YouTube. On ne sait pas encore quelle sera la mise en place pour les streams internationaux et notamment pour le stream français. On sait que ce seront les mêmes casters que la saison précédente. Ils l'ont annoncé là, il y a peu de temps, là, juste avant le début qu'on enregistre. On le savait à peu près, mais maintenant c'est officiel. En revanche, on ne sait pas sur quelle chaîne YouTube, puisque c'est comme sur Twitch, il y a les chaînes. Il y a une chaîne pour l'Overwatch League officielle, mais est-ce qu'il y aura une chaîne Overwatch League France? Est-ce que ce sera la chaîne Overwatch? Tu as des infos là-dessus, Shabba, toi?
En fait, j'ai pas spécialement d'infos, mais j'ai vu le galop d'essai de l'e-sport Blizzard sur YouTube, parce que le week-end dernier, il y avait le Masters Tour d'Arlington sur Hearthstone, qui du coup a été diffusé sur YouTube. En fait, il y avait pas de cast inter pour le moment, parce que évidemment, toutes les orgs françaises, par exemple, diffuser sur Twitch, donc Blizzard leur a fait un possible. Mais en fait, c'était directement sur la chaîne Hearthstone. Donc s'il y a une chaîne Overwatch League, ce sera Overwatch League. Et il suffit de faire une déclinaison au pire, mais il me semble qu'il y a déjà une chaîne Play Overwatch FR. Donc peut-être
je pense que c'est un peu plus compliqué parce que il y a en fait Overwatch League et Overwatch, c'est deux entités différentes.
C'est vrai. Et Overwatch c'est le jeu lui-même, c'est pas l'e-sport.
Il y a des conflits en fait parfois entre même les deux organisations parce que dans les lignes de apprendre etc, il y a des problèmes. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, je reviens du coup sur ce que je voulais dire, parce que c'est relié à ta question, Alexis, c'est que pour moi, YouTube, en fait, alors la politique de Blizzard, c'est toujours d'avoir fait de ce jeu, de vouloir faire l'e-sport mainstream, en fait. Alors que c'est un jeu qui est très compliqué à lire, on est d'accord, bref. Mais l'objectif premier, c'était de faire que l'e-sport devienne mainstream grâce à Blizzard, grâce à Overwatch, et le fait d'aller sur YouTube, qui est devenu comme une plateforme mainstream par rapport à Twitch, Twitch, c'est clairement un truc de niche encore. Bah, en vrai, c'est logique dans leur politique. Mais je pense qu'ils vont créer des chaînes YouTube. À mon avis, ils vont créer des chaînes YouTube où ils vont poster les replays Overwatch. Ils vont mettre les lives Overwatch League FR, par exemple, et ils vont poster les replays FR aussi après dessus, je pense.
D'accord, donc on créerait une nouvelle chaîne
Ah, je
Overwatch
pense,
League France.
ouais, il y a de fortes chances.
Ouais, bon, moi je pense pas que ce soit une mauvaise idée, hein. Les gens, de toute façon, c'est comme dit depuis le départ, je pense que les gens qui veulent regarder, de toute façon, ils trouveront. Et c'est pas parce que
Exact.
c'est sur Twitch ou YouTube ou je ne sais quoi ou Facebook Gaming que
Oula, calme-toi.
peut-être pas quand même, mais
Ouais.
que ça fera plus, enfin que ça va impacter énormément les anciens et les nouveaux viewers. Les deux plateformes ont leurs avantages. Bon, bah voilà,
Après, ça peut
le choix est
clairement
fait.
impacter sur le. Ça peut impacter quand même, faut pas se le cacher. Pour moi, il y aura une diminution du viewership, c'est obligé. Parce qu'il y a des habitudes qui vont être bouleversées. Sur les audiences de Hearthstone, ça s'est ressenti. Ça va se ressentir obligatoirement sur. Je serais surpris qu'il n'y ait pas une baisse d'audience, quand même.
Mais peut-être au début, mais après ça peut toujours remonter
Ouais,
avec des
moi
bon.
je. Ouais,
Bon,
on verra.
j'y crois pas trop non plus, mais je pense que Blizzard espère que ça va être le cas.
On espère tous.
On l'espère
Ah bah oui.
tous. Ok, bon bah voilà pour la première info dont on voulait parler, la nouvelle nouveauté, Pléonasme, bonjour. Et la deuxième, c'est ce système que Blizzard a appelé le Hero Pool, la piscine de héros, comme disait Shabba juste avant, et qui est en fait une espèce d'alternative au pick et ban que vous pouvez voir dans d'autres jeux. Sauf que là, le principe, c'est que chaque semaine, à partir de la semaine 5, si je dis pas de bêtises, donc semaine 5 incluse, il y aura un héros de support, un héros de tank et deux héros DPS qui ne seront pas jouables chaque semaine. Ces héros-là ne pourront jamais être bannis deux fois de suite, et surtout, ils seront sélectionnés chaque semaine parmi les héros les plus joués de la semaine précédente. Donc c'est pas des héros qu'on voit jamais, c'est-à-dire que ce sera pas Reinhardt la première semaine par exemple, parce que Reinhardt a priori on le verra pas. Du coup, pendant 4 semaines, on va voir tout le monde, et au bout de 4 semaines, ça va tourner un peu. Une nouvelle qui a évidemment fait beaucoup parler au sein de la communauté, avec beaucoup d'arguments pour et beaucoup d'arguments contre. Moi, j'ai plutôt un avis que je donnerai après si ça vous va. Je laisse commencer qui veut. C'est open mic.
Ah,
Personne
bah
ne se lance.
t'aurais pu commencer, hein. T'aurais pu
Vous
commencer, hein.
voulez que
T'aurais pu
je commence?
commencer, ouais.
Ah, bah,
Allez, vas-y,
allez,
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 allez.
allez, d'accord.
Alti, alti, alti.
Ah, d'accord. Si vous insistez. Non, au secours. Alors, moi, je suis plutôt dans le camp des contres pour deux raisons assez bon, que moi, je trouve
C'est
importantes.
évident,
Non,
ok.
pas évidente, mais pas évidente, mais que moi, je trouve importante dans cette réflexion. La première chose, c'est déjà pour le staff et les joueurs, je vois le bordel déjà que c'est d'organiser les entraînements, en plus avec les déplacements qu'il va y avoir toute la saison, de mettre en place des stratégies pour contrer les méta qui existent et possibles, et en même temps le style de jeu de chaque équipe. Si au-dessus de ça, tu rajoutes une contrainte supplémentaire, j'ai peur que ça dégoûte un peu les joueurs et le coaching staff, et que du coup, la vague de départ qu'on a vue entre la saison 2 et 3 ne soit qu'un précurseur, précursrice, bref, ne soit qu'un
Un
avant-goût de ce qui
début,
peut arriver.
un préambule.
Un préambule, oh là là, quel podcast de lettré. La deuxième chose, c'est que moi je trouve que ça rajoute de l'aléatoire dans un jeu qui est déjà en fait par défaut un peu plus aléatoire qu'un sport. Si on veut se rapprocher d'un sport traditionnel compétitif, moi je trouve que tu rajoutes de l'aléatoire dans la mesure où tu dis, ok, donc ça veut dire que cette semaine-là vous jouez de telle équipe, ah mais il n'y a pas leur perso phare qui va jouer, bon bah ça va, le match est jouable, vous allez gagner. Et la semaine d'après, il y a une autre équipe qui va jouer cette équipe-là, mettons, et là le perso phare va revenir, et là ils vont être beaucoup plus forts, et là ils vont gagner. Et ça veut dire que le classement final ne sera pas forcément le reflet de l'état de forme, dans la mesure où tu auras des match-up qui sont un peu modifiés. Alors heureusement c'est pas trop le cas, mais sur des matchs très serrés ça peut jouer. Et du coup à la fin, quand on se plaignait en saison 2 que tu jouais deux fois Vancouver dans le même stage, du coup ton stage était niqué, et ben là ça va être pareil, tu vas avoir des équipes, elles vont jouer Hangzhou la semaine où il n'y a pas Winston dispo pour Gucci, bah elle a beaucoup plus de chances que l'autre équipe qui va jouer la semaine après. Donc voilà, pour ces raisons-là je trouve que c'est pas une bonne idée et que ça va être compliqué à gérer pour tout le monde. Il y a d'autres arguments très bons que j'ai entendus en faveur du pour. Peut-être c'est votre cas. Messieurs, je vous laisse. Alors, du coup, c'est Atao. Voilà, j'ai choisi. C'est Atao qui se lance.
Ok. Écoute, j'ai aucune certitude en fait sur ce système parce que j'ai en effet entendu de tous les arguments parce que j'ai écouté avec grande grande attention quand même le live de AlphaCast qui était excellent. Il y avait des intervenants de tous niveaux, joueurs pro, streamers, casters, et j'ai trouvé ça super intéressant à écouter. Et il n'y a pas de bonne solution, j'ai l'impression, parce que moi, ce que j'aurais souhaité, c'est de confier en fait ce système de hero ban aux joueurs et aux coachs, en fait, parce que c'est là où on aurait vu vraiment le coaching staff travailler et en effet rajouter de l'aléatoire, je trouve ça un peu dommage. Mais cependant, on va aussi voir la capacité des joueurs à flex, en fait, donc on va avoir une autre qualité mise en avant. Et déjà, des joueurs qui étaient OTP sur certains personnages, ils étaient moins appréciés que d'autres. Par exemple, il y en a qui ont beaucoup souffert d'être OTP ou d'être uniquement hitscan. Je prends le cas par exemple de AKM, qui lui est un joueur qui est essentiellement hitscan. Et ça lui fait défaut aujourd'hui, cruellement défaut, et on le voit. Donc, et les joueurs qui sont capables de flex, on va dire, en DPS, c'est des joueurs qui ont leur poste en tant que titulaire. Je pense à Soon, par exemple. Par contre, sur d'autres postes, c'est plus compliqué. Et là, je te rejoins en effet là-dessus. C'est par exemple sur les healers, où on prend des healers, certains healers vont clairement en souffrir. Je pense à Jonak, qui va particulièrement en souffrir parce que il était clairement clutcher chez New York, et on avait créé la composition autour de ça. Mais ça restera quand même globalement pour moi des excellents joueurs. Et c'est, pour moi, je pense que ça va... En effet, le fait de rajouter cet aléatoire-là, je pense que c'est d'autres facteurs du coup qui vont faire que les équipes seront meilleures. C'est-à-dire que la capacité d'adaptation va être mise en avant plus que le fait d'être bon sur un personnage. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Mais
pour moi, ça l'est en tout cas. J'espère que auditeurs, ouais, ça l'est. Mais tu es impatient de voir ça.
C'est inextricable. Et moi, j'ai aucune certitude, en fait.
Très bien. Bon. Shabba, à ton tour.
J'avoue que je suis également dans une espèce de flou par rapport à tout ça. Le truc qui m'embête un peu, c'est que en forçant des bans comme ça, ils veulent casser une forme de méta. Sauf que la méta, c'est un petit peu l'essence du jeu compétitif. S'ils veulent que la méta dure moins longtemps, bah il faut faire des équilibrages plus souvent, en fait. Ce qui me dérange avec ça, c'est que t'as l'impression que c'est une espèce d'aveu de faiblesse de Blizzard, en mode on a du mal à équilibrer notre jeu, donc les persos qui sont forts et qui sont beaucoup joués, on va les mettre sur le côté pour la semaine, puis après on verra comment ça tourne. Ça, je trouve ça dommage, c'est préjudiciable pour Blizzard, parce qu'au niveau de l'équipe d'équilibrage, je trouve ça dénigre vachement leur travail au final.
Après, on n'y est pas.
Vas-y, réponds.
Après, on n'y est pas, mais quand même, les meilleurs moments, les moments où j'ai le plus aimé l'Overwatch League, c'est dans les moments entre deux méta, tu vois.
Ouais, quand les joueurs se cherchent, en fait.
Ouais, franchement, c'est trop bien, tu vois, parce que t'es en mode, ah purée, ils ont un coup d'avance et tout, mais c'est trop bien. En fait, le clutch du coaching, en fait, les coachs, ils vont dormir 2 heures par nuit. Mais le spectacle, ça va être incroyable, parce que celui qui aura un coup d'avance, bah, juste, ça sera le boss, en fait, tu vois.
Et pour une semaine. Et ça veut dire que la semaine d'après, le classement...
C'est deux victoires, tu vois, déjà, ça peut être
rapide. Pas d'ailleurs, tu vois, parce que peut-être qu'ils arriveront à faire le coup 2 fois ou 3 fois, et ça va prouver aussi les différences aussi au niveau de l'intelligence des jeux, etc. Du coup, ça va mettre en avance d'autres compétences qu'on va pouvoir aussi apprécier. Et Luthi avait raison, ça va faire du spectacle, c'est vrai, ça va faire plus de spectacle, et on aura cette sensation d'en mode « Oh purée, mais quel clutcher !» Tu vois, genre en mode « Oh, on a découvert, ils ont découvert ça avant les autres et tout ça !» Et le fait d'avoir cette notion de coup d'avance, pour moi, je la trouve tellement jouissive pour un viewer. « Oh là là, franchement, qu'est-ce que c'est bien trouvé !» et tout, tu vois. Et moi, pour beaucoup de gens, et beaucoup de gens le disent sur les réseaux sociaux, et beaucoup de casters aussi, les meilleurs moments de la saison, et là on voit le plus de tweets où les gens sont hyper emballés, c'est quand les gens ils disent « Oh là là, c'est trop bien cette nouvelle méta !» En fait, il n'y a pas de nouvelle méta, c'est que les gens sont en train de chercher justement celle-ci, et du coup, ils testent plein de trucs, tu vois, et c'est ça qui est super intéressant.
Je te rejoins là-dessus. Pour le coup, pour le spectacle, c'est très bien. Je suis même persuadé que du coup, comme tu disais, le problème des OTP, ça va un peu réguler ça. Hein. Suivez mon regard du côté d'une franchise en orange. Hein.
Chipsa, hein. Bonjour à Chipsa, on l'embrasse.
Voilà. Ouais, mais Chipsa, c'est pas sûr. Et les seuls OTP qui ont vraiment performé, qui ont vraiment eu de la valeur aux yeux des coachs, et c'est ce que Fefe me disait quand il répondait à une Q&A, c'est les Tracers.
Ouais,
les Tracers, c'était vraiment des personnages très très forts, et on demandait aux gens de OTP Tracer, mais sinon dans aucun cas tu demandes à un joueur de OTP un personnage, tu vois.
C'est vrai.
Shabba, tu avais d'autres arguments, ouais, vas-y.
J'avais un deuxième point négatif, voilà, je fais le casseur d'ambiance, même si je pense que je suis avant tout curieux de voir comment ça fonctionnait. L'interrogation que j'ai, c'est aussi de me dire, oui, mais au final, si toutes les semaines ça change le perso banni, est-ce qu'un perso, s'il n'est pas banni 2 semaines de suite, par exemple pour un tank, Bah, la semaine d'après, il va juste être rejoué, en fait. Donc, est-ce que, comme il y a un seul tank et un seul support qui sont bannis, va pas y avoir, en fait, un support et un tank qui vont être à peu près inamovibles, et qui vont, il y aura quand même une méta assez, assez définie malgré tout. Peut-être qu'au niveau des DPS, vu qu'il y a plus de picks possibles, et moins situationnel, c'est possible qu'on ait quelque chose de, d'un peu plus diversifié. Mais pour les tanks et les supports, je me dis quand même, j'ai du mal à voir comment ça va diversifier tant que ça, qu'est-ce qui est joué sur ces postes-là.
Là-dessus, en fait, je me dis, tu vois, on peut imaginer une méta où au lieu, comme c'est du 2-2-2, t'as 3 tanks, 3 supports qui sont toujours dans la rotation. Bon, bah, la semaine où il y en a un qui est banni, bon, bah, c'est toujours les deux mêmes autres. Et du coup, ça risque de tourner peut-être bah, voilà, espèce de cercle en permanence. Ah, bah, il y a le héros A qui est banni, on prend les B et C. Le B est banni, bon, bah, on prend C et A. Le C est banni, on prend A et B. Bon, et voilà, si c'est ça, on aura perdu l'intérêt du spectacle et de voir des nouveaux trucs dans la mesure où. Bah oui, ça sera toujours un peu les mêmes quand même. Le problème, c'est qu'on peut pas en bannir plus parce qu'il y en a pas assez. Et c'est pour ça que quand on compare avec d'autres jeux, comme évidemment la référence est toujours League of Legends, mais dans League of Legends, t'as 150 personnages. Donc au bout d'un moment, c'est pas grave si t'en bannis 10 par match, on s'en fout. T'en as toujours 100, 140 de dispo. Là, je trouve que c'était peut-être un peu prématuré d'introduire un système comme ça dans la mesure où bah, tu réduis vachement des choix, mais en même temps, bah, il en reste suffisamment pour que ce soit toujours les mêmes quand même. Je pense pas qu'on verra des picks exotiques chaque semaine. Voilà.
Je pense que t'as pas de prématuré quand ton jeu est à deux doigts de mourir en fait.
Oui.
Oh
allez, ça, c'est
oh
envoyé.
Hop, la case est cochée. Ouais.
Le missile part directement de la Bretagne et atterrit à Los Angeles. Superbe.
Tu vois que le titre, tu le cliques ou pas?
De quoi?
Ça, on pourra le mettre en titre, ça.
Quand ton jeu est à deux doigts de mourir, rien n'est prématuré. Je le mettrai peut-être dans la description du truc. Mais non, mais on va faire un clip audio, bien sûr. Ok, écoutez, messieurs, si chacun a donné son avis, bon, de toute façon, voilà, on est là dans la supputation, évidemment, puisqu'on ne peut pas savoir évidemment comment ça va se passer à l'avance. On espère que ce sera le bon move pour comment ça s'appelle, Blizzard. La suite, bien sûr, ce sera après ce petit jingle.
Salut, c'est Hakem, vous écoutez Nerf Dis Podcast.
AKM, bien sûr, qu'on remercie de nous avoir fait ce petit jingle au moment de la périsis. Pourquoi AKM? Évidemment parce que on va parler des deux homestands qui vont ouvrir l'Overwatch League ce week-end et qu'il y en a un des deux qui est à Dallas. Voilà, tout est fait, vous savez tout. Messieurs, comment on va faire? On va d'abord donner les affiches des quatre matchs de chaque homestand et puis on s'attardera sur un qu'on a choisi à l'avance. Chut, c'est la surprise. Quand est-ce que ça commence? Ça commence samedi, donc samedi 8 février. Ce sera à 19h. Premier match assez sympa puisque on l'a dit et redit, mais maintenant vous le ressaurez. C'est Paris contre Toronto à 19h. Une affiche okay, intéressante pour beaucoup de points, mais surtout parce que ce sont les retrouvailles de Coach Fefe avec son ancienne équipe. Donc ça va être rigolo. Dans la foulée de ce match-là, donc Excelsior contre Spitfire à 21h. On espère que ce ne sera pas la boucherie complète. Alors oui, donc attention. Parce que là, on dit on va faire les deux homestands, mais sauf que les matchs vont s'enchaîner la journée à deux endroits du globe différents. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Parce que donc derrière, une fois que c'est fini à 21h, on enchaîne à 23h avec Titans Gladiators, mais qui lui se jouera à Dallas. Jusque là, tout le monde suit. Et enfin, Fuel Valiant, toujours dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Ça, c'est pour le premier jour. Et deuxième jour, Paris-Londres. Le crunch d'ailleurs, c'est la revanche du match de samedi dernier, de dimanche en rugby, c'est très bien. New York Uprising Boston donc à 21h, le dimanche toujours. Vancouver Valiant à 23h et Dallas Shock, l'ouverture de la saison des champions de la saison 2. Ça sera dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin. Un programme sympathique avec deux équipes sympas. Écoutez, bon, on est de toute façon content que ça reprenne.
Ouais, c'est cool.
Même s'il y avait eu Florida contre Boston Uprising, on aurait été content. Alors, donc bon, quel salaud. Déjà, il tacle. On a choisi un match par... comment on appelle ça? Des homestands, oui. Et on a dit, bon, On va évidemment parler du match de Paris contre Toronto. C'est le match avec beaucoup d'implications. Et bon, bah voilà, on est quand même impatient de voir ça. Et puis impatient de voir ce que va donner la nouvelle formule de Paris, de voir ce que va donner la nouvelle formule de Toronto. Bref, plein de choses à dire. Messieurs, par quoi on commence? Est-ce qu'on parle d'une équipe en particulier d'abord? Toronto, tiens. Allez, parlons un petit peu de Toronto ouais. D'abord. Atao, parle-nous de Toronto.
Bah écoute, c'est une équipe quand même qui est plein de promesses, qui en tout cas forcément a eu un écho particulier en France de par l'arrivée de Fefe et ensuite de Alblès et de Lillebo. Donc c'est une équipe qui est quand même attendue au tournant par la communauté. C'est une équipe aussi qui est attendue au tournant globalement par l'Amérique du Nord parce que c'est une équipe qui est quand même talentueuse avec des gros talents. Après, j'ai l'impression que les gens ne la voient pas très très haut pour le moment aussi parce que je pense même si on a des joueurs qui sont de qualité, peut-être qu'on doute encore sur l'efficacité du staff, et à raison, parce que Lillebo n'a jamais évolué en Overwatch League. On a eu un coach Fefe qui n'a pas fait un super résultat objectivement la saison dernière, si on regarde juste le classement, il n'a pas fait un super résultat. Donc on a des raisons de douter de ce staff, et donc de l'équipe en général, à voir, mais... Voilà, si on peut s'arrêter là, moi je pense que c'est une équipe qui peut aller globalement loin cette année et ça passe par une victoire face à Paris ce week-end.
Une équipe qui a que deux tanks toujours, hein, là où les équipes ont comblé un peu les trous, eux ils sont restés seulement avec Halo Beast, devenu Beast, et Nevix. Shabba, sur le premier match face à Paris, c'est quoi que tu as le plus envie de voir? C'est le nouveau Toronto, le nouveau Paris, l'affrontement entre deux joueurs particuliers, qu'est-ce que tu attends?
Est-ce que j'attendrai pas, attention, prenez vos bingos, le match dans le match. très 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 honnêtement, je pense qu'il y a à peu près tout qui m'intéresse sur ce match. Je vais être un peu suisse, hein, je vais pas pencher pour un truc en particulier. Parce que les deux équipes ont quand même fondamentalement changé pendant l'intersaison. Ça va être vraiment intéressant de suivre qui fait quoi, comment ça s'adapte, comment Paris joue sans ces Coréens qui n'ont pas encore l'âge requis aussi. Hein, on en reparlera plus tard dans la saison pour Hanbin et surtout plus tard pour Sparkle. Mais ça va être intéressant de voir comment tout ça s'est goupillé de chaque côté. Et sinon, ouais, bah pour je suis un petit peu dubitatif sur le duel de frontline, pour le coup, parce que il n'y a aucune des deux frontlines qui m'impressionne, en fait, dans les deux équipes. Je trouve que Nevix est supposément très fort parce que c'était censé être The mec de l'ombre chez San Francisco, mais on sait pas vraiment de son niveau quand il doit être titulaire. C'est pas grand chose son niveau quand il doit être titulaire. Beast, c'était du Contenders, donc ça à voir comment il transitionne sur la scène Overwatch League. Et côté Paris, ben No Smite, il avait été relégué en team académique du côté de Hangzhou par Gushue, et en off tank, ben c'est Smex. En termes d'expérience compétitive, à part la World Cup avec les Anglais, n'a jamais dépassé le stade des Contenders non plus. Donc je pense que une des clés du match pour moi sera de savoir quelle équipe mettra le mieux la pression sur la frontline adverse.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a le troisième tank éventuellement côté Paris, c'est Ben Best, mais on ne sait pas. Moi en fait, c'est ça un peu que j'ai envie de voir côté Paris, c'est qui va jouer finalement, parce que tu vois, t'as le choix entre les trois tanks que t'as cité. Bon, ce mec c'est le seul off tank. Mais est-ce que c'est No Smite ou Ben Best? Est-ce qu'en DPS, a priori Soon sera là, mais du coup est-ce que c'est Nico ou Xzi, je sais pas comment on dit, XZI,
on dira Xzi et puis voilà.
Bon bah on dira Xzi. Est-ce que c'est Nico ou Xzi qui va jouer? Alors chez les supports, j'imagine qu'on va laisser Cruz et Grey qui ont une expérience tous les deux, mais ça veut dire quid de FDGod et Heap. Voilà, moi je suis curieux de voir quel line-up Paris va aligner pour ce premier match qui est déjà important parce que c'est une équipe en face qui peut être un adversaire direct pour les playoffs en fin de saison, donc ça met déjà un peu de pression. Et puis bon, il y aura peut-être l'idée d'aller un peu titiller l'ancien coach et copain Fefe et Alblès aussi en prenant la victoire. Donc bon, voilà, il y a plusieurs implications sympas dans ce match-là. Est-ce que, tiens, vous allez me donner un petit pronostic d'ailleurs, paf, maintenant, comme ça, au débeauté.
C'est en combien de maps maintenant? C'est en 3, c'est ça?
En fait, c'est un best of 5.
Best of 5.
First of 3, non, c'est ça?
Bah, en fait, c'est best of 5 dans la mesure où le premier qui arrive à 3 a gagné, quoi.
Ouais, donc c'est un first of 3, ouais.
Oui.
C'est pas facile, hein.
3-1 pour. Moi, je dirais 3-1 pour Toronto. Après, le truc, c'est que 3-1 pour Toronto, mais en fait, le truc, c'est que Toronto, on a beaucoup plus de certitude que Paris. À Paris, il y a trop de questions autour
des équipes. C'est vrai. Du coup, moi, je serais parti sur un 3-2, parce que les deux équipes se reconstruisent, et que même s'il y a des certitudes, par exemple des gros joueurs connus de la ligue, Shurfour, Agilities, Kariv, Kelex du côté Toronto. C'est toujours la même histoire, c'est le fait d'arriver à mettre ensemble ces individualités pour que le collectif fonctionne bien. Ça, c'est une théorie et une ligne de conduite chère à Fefe, tout ça. Donc, comme les deux équipes se construisent et qu'on part pas vraiment genre sur un noyau déjà bien solide avec juste un ajout, exemple New York, je pense que ça va être serré, donc je dirais 3-2 et je vois quand même ça basculer sur Toronto.
Eh ben moi je vais prendre la tangente, pas la contingente, ça veut rien dire, mais la tangente, je pense que Paris va gagner dans la mesure où ce que tu dis, Sheba, est intéressant et est vrai, et je pense qu'en l'occurrence, c'est plutôt Paris qui a le plus d'expérience commune dans la mesure où il y a une ligne de support qui a déjà joué ensemble, des DPS a priori qui ont déjà joué ensemble. Oui, il y a aussi ça du côté de Toronto, mais Paris, on se souvient, l'an dernier, avait commencé très fort et finalement, à chaque stage, chuté un petit peu, et voilà, je les vois bien continuer sur cette dynamique-là aussi en prenant peut-être un premier match surprise face à Toronto, pourquoi pas. Le score, je sais rien, ça c'est toujours un peu au pif, surprise, mais 3-2, ouais, 3-1, 3-2, mais honnêtement, je pense que Paris a ses chances sur ce match-là. Mais donc ça veut dire que vu que vous êtes tous les deux à pronostiquer Toronto, que je suis seul à pronostiquer Paris, dans le concours de pronos interstructure dont vous verrez peut-être les détails bientôt sur Twitter, on votera Toronto, puisque deux contrats,
voilà.
Mais voilà, vous saurez que j'ai raison. Et dans l'autre... Ce sera votre faute si on perd.
Et dire, on pronostique le reste ou on reste là-dessus?
On va peut-être faire l'autre match, du coup. Le match de l'autre homestand qu'on voudrait voir. Et le match de l'autre homestand qu'on voudrait voir, on a choisi Dallas contre Los Angeles Valiant. Alors moi, c'est pas celui que je voulais faire au départ, mais vous m'avez convaincu d'aller là-dessus.
Deux contre un.
Et voilà. Et comme d'hab, dans ce podcast, je me fais bolosser. Oh, ça va.
C'est vrai, non, mais complètement. Je suis complètement
raison. Ok. Eh bah, tiens, Théo, pourquoi on a pris ce match-là de Dallas contre Los Angeles Valiant?
Parce que je pense que c'est le match où il y a le plus de questions et le plus de challenges au vu du week-end. On va avoir Vancouver contre Gladiators et on va avoir Vancouver contre Valiant et Dallas contre San Francisco Shock. Dallas, moi c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais c'est une équipe qui a toujours déçu globalement. Et c'est une équipe, on attend toujours des résultats. Pour moi, ça a toujours été la grande équipe américaine qui devait fonctionner de par l'aura qu'elle avait, les fans, etc. Donc, c'est toujours une équipe qu'on attend, même si elle a globalement déçu. Et Valiant en face, qui est en reconstruction, avec Pakinten qui a eu un recrutement assez atypique, et avec des joueurs de seconde zone, si ce n'est pas de troisième zone. Donc, on va dire que c'est quand même un match qui a beaucoup de questions autour et... Peut-être c'est des équipes aussi qui risquent de se tirer la bourre tout au long de la saison au niveau du classement général dans une conférence qui est globalement beaucoup, beaucoup plus relevée que la conférence Est. Donc ça risque, ils vont. Je pense que c'est un match qui est important pour le début de leur saison et j'ai très hâte de voir les nouvelles couleurs de Valiant.
Ah oui, d'accord, t'es comme ça toi.
Dis pas que t'es pas pareil avec les couleurs de Florida Mayhem toi.
Mais rien à voir, les couleurs de Florida Mayhem sont sublimes. Bien sûr, tout
ouais,
ça.
Mauvaise foi.
Mais sinon, tout mon analyse, vous en foutiez ou c'était juste les couleurs?
Ah non, moi, c'est aussi pour ça que j'aurais voulu le voir en fait, le match. Hein.
Ouais.
On a des équipes où c'est. Enfin, on a Valiant qui a complètement changé tout son effectif à part. À part KSF.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, il y a plein de nouveaux joueurs. Moi, je trouve que c'est toujours assez sympa de regarder les nouveaux arrivants dans la ligue. Et du côté de Dallas, bah, c'est une énième restructuration.
C'est clair.
Mais il y a des gros noms qui sont arrivés. Donc il y a la fameuse synergie retrouvée du stage 3 de la saison 1 de Boston Uprising, maintenant du côté de Dallas. Ouais. Donc, je sais pas, il y a plein de choses en fait.
Tu crois à ça
non.
Gamzu noté? Non. Bah...
Ouais. Non, note a trop diminué en niveau pour que cette synergie soit au niveau de ce qui se passait en saison 1. La méta a trop changé, il y a trop de choses qui sont plus les mêmes. Et je pense que très honnêtement, c'est même pas comparable en fait.
Après, est-ce que c'est pas Gamzu qui tirait noté un peu vers le haut aussi?
C'est possible. Hein. Ah, bien sûr. Hein. Ça après, puis retrouver un bon pote à toi pour Frontline dans la même équipe, peut-être que ça peut émuler et tirer vers le haut, clairement. Mm-hmm. Mais dans l'idée. Il y a beaucoup de nouveautés dans ces deux équipes et c'est le seul match, comme disait Taou, où le résultat n'est pas prévu un peu d'avance. Quoi. Donc, c'est peut-être pas le match le plus flashy, mais c'est un match qui, en termes d'intérêt purement sportif, me semble très intéressant.
Puis c'est bien parce que du coup, pour nos viewers en France qui vont regarder, qui vont devoir rester debout jusqu'à 1h du matin pour voir le match que les types de Nerf 10 Podcast leur ont recommandé, parce que c'est vraiment des gens qui s'y connaissent et qui finalement va être une purge. Bravo les gars.
Exactement.
Bravo.
Donc toutes les plaintes seront à donner at Raoul VDG sur Twitter, bien évidemment.
Exactement, bien sûr. Exactement. Allez-y. Théo, t'allais faire une blague sur Flashy, non?
Flashy, non, mais je pense que c'est... Enfin, moi, je trouve que ça va être cool. C'est à Dallas, en plus. Je pense que c'est le match qui peuvent vraiment... Enfin, enfin, je pense que San Francisco Shock, le lendemain, ils vont clairement éteindre Dallas. Donc, ils vont éteindre les fuels, hein, clairement. Donc, je pense que vraiment, c'est le match où il peut y avoir de l'ambiance. En plus, on n'avait pas été déçus quand il y avait eu le homestand l'année dernière.
C'est vrai.
Donc, pour moi, je pense que voilà, c'est un match qui sera cool à regarder.
Bah, alors, si c'est cool à regarder, messieurs, il va falloir me donner un pronostic.
Ok.
Et là, vous faites moins les malins.
Non, ça va.
Moi, je donne une victoire de Dallas. 3-2.
Ah ouais. Moi, je pense que c'est plus one-sided en vrai. Je vois une victoire assez franche de Dallas. 3-0, ça me surprendrait pas. Puisque maintenant, c'est 3-0. Hein, ouais, donc, on l'a dit. Il n'y a pas de 4-0.
J'ai une trop haute estime de Pakinten encore. J'ai besoin
peut-être
de.
Il a de revoir la réalité.
Il a quand même réussi à faire un super projet avec Hungry Titans. Il a quand même été globalement très convaincant quand il a repris l'équipe, donc j'ai hâte de le voir avec son projet à lui. Voilà.
Oh, je suis assez d'accord. Il y a... Du côté de Valiant, en fait, le truc c'est que c'est un petit peu comme Londres, c'est une équipe dont on n'espère pas grand chose, donc on peut être qu'agréablement surpris. Donc moi je donnerais Dallas aussi, mais 3-1. Voilà, 3-1 et de manière générale peut-être des maps serrées. Voilà, si je dois donner une physionomie.
Ouais, est-ce que, et j'étais en train de me poser la question en direct et du coup j'ai pas eu le temps de trouver la réponse, mais est-ce qu'on a déjà les map pool de ce premier stage?
Il me semble que oui.
Et alors surtout, et en fait parce que ma question c'est ça, quand on dit 3-1, 3-0, la question c'est surtout c'est quoi l'ordre des maps? Parce que c'est ça aussi un peu qui décide, qui joue. T'as des équipes, typiquement Paris sur les deux CP. Non, c'est lesquels où ils sont nuls? C'est les captures.
Bon, je sais les KOTH, mais... ouais.
Ouais, c'est ça. Sur les KOTH, ils n'y arrivaient jamais. Donc, l'ordre aussi dans lequel ça va se jouer, est-ce que ça peut avoir une influence sur le résultat final? Je ne sais plus si on a l'info de l'ordre. Et surtout, est-ce que l'ordre, ça a toujours le même? Parce que vu que, et c'est ça qui me semblait qu'il avait changé, c'est que vu qu'il n'y a plus que 3 maps minimum au lieu d'en avoir 4, si tu as des équipes qui se font laver en 3-0 à chaque fois, il y a une map qu'elles ne jouent jamais. Et je crois qu'ils avaient prévu de changer, que l'ordre ne soit pas toujours le même. Bon, mais je...
Possible.
Alors ça c'est probable. Moi j'ai retrouvé les maps qu'il y a, mais après j'ai pas.
Ah bah tiens, donne-nous les maps tant que tu y es.
Alors Ilios, Busan, Jiang, Népal. Et comme c'est une vidéo,
Non mais t'embête pas, mais
Oasis.
j'allais dire si t'as une liste sous les yeux de nous.
En fait la liste elle doit être trouvable. C'est juste que là tout de suite j'ai pas. Ah voilà, si, ça y est. Alors map de contrôle: Ilios, Busan, Lijiang Tower, Oasis, Népal. Map d'assaut, les très aimés de CP, Anamura, ouais. Colonie Lunaire Horizon, et Temple d'Anubis.
Oh, j'ai des spasmes.
Arrête, Anubis, moi j'aime bien Anubis.
Anubis c'est cool, c'est Colonie Lunaire moi qui me...
Bah, Anubis, on a des bons souvenirs, c'est pour ça.
Hybride, Blizzard World, Eichenwald et King's Row, et en full escort, Junkertown, Havana et Dorado.
Et là, il n'y a pas marqué l'ordre des maps ou un truc comme ça dans la vidéo sur laquelle t'es? Non, peut-être pas.
Là de suite, je sais pas.
Et en fait, pourquoi il y a les 5 KOTH? Parce qu'en fait, en cas d'égalité, tu joues. Ah si, c'est ça. En cas d'égalité, tu vas jouer. Vu que la cinquième map, ce sera déjà. La quatrième map, ce sera déjà un truc comme ça. Tu vas rejouer une autre. Et en fait, tu peux jouer. Faut pas que tu joues deux fois la même dans le même map. Donc en fait, toutes les maps sont dispo comme ça. Bon, c'était pas très clair dit comme ça, mais vous m'avez compris. On va essayer de retrouver si jamais on a l'info. Mais sinon, c'est pas très grave, on va s'en sortir. Donc tout le monde voit Dallas sur ce match, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça.
Ça fait.
Très bien. Écoutez, messieurs, on est pas mal. Est-ce que vous vouliez rajouter d'autres éléments? Profitez, vous avez un micro devant vous et des gens qui vous écoutent. C'est l'occasion.
Écoute, moi j'espère juste que d'un point de vue technique, en fait, sur les différents lieux où les homestands auront lieu, j'espère que d'un point de vue technique, il y aura une certaine harmonie, en fait, que Blizzard aura donné des codes à tout le monde pour que les émissions, enfin les diffusions aient chacune un peu leur spécificité sur place, parce que évidemment, il faut que tu donnes l'accent de la ville dans laquelle tu es, mais quand même qu'on retrouve un fil conducteur entre les différents homestands. J'espère juste que ce sera pas trop disparate en termes de ressenti quand on regardera les homestands à différents endroits.
connaissant Blizzard, c'est leur genre de donner des instructions assez précises et claires sur ce qu'il faut faire, surtout, et pas faire. Mais oui, oui, on verra. Je ne me rends pas trop compte à quel point il y aura des, ce que tu appelles un accent local sur les différentes rediffusions. À part les scènes différentes, est-ce que ce ne sera pas juste toujours la même prod, quoi ?
Bah, en fait, le truc, non, c'est qu'ils vont externaliser la prod déjà. Prod externalisée, c'est pas la même, c'est pas des équipes.
Et oui,
effectivement.
C'est pas des équipes. C'est pour ça que ça fait peur en fait, le décalage de production entre d'une équipe à une autre. En fait. Donc,
Et peut-être de spec aussi, non ? Est-ce que ce sera les mêmes à travers toute la ligue qui spec ou ce sera des équipes locales ?
Je sais pas.
Que de questions finalement dans ce podcast. On est là pour poser des questions, c'est intéressant.
Ouais, évidemment.
Et puis
bien. Enfin bref, la question de l'itinérance de l'événement est très intéressante. Et j'y pense, si je peux me permettre de faire une petite digression sur le sujet.
Tu es là pour ça.
Alors, depuis peu de temps, je me suis remis à regarder du catch.
Yes.
J'adore. WWE, en fait, c'est quand même incroyable comme organisation, parce que c'est quand même aussi, tous les jours, ils changent de ville, tu vois.
Ouais.
C'est quand même aussi, et on parlait d'itinérance des clubs, etc. Et eux, tous les jours, ils réinstallent dans une salle qui n'est pas faite pour ça à la base, parce que c'est fait pour des événements sportifs. Ils réinstallent tout un setup, un ring, ils réinstallent toutes les caméras, etc. pour faire des shows télé. Et ils font deux shows télé dans la semaine, plus des événements live qui ne sont pas diffusés à la télé. Mais il y a quand même, on va dire, tout un travail d'itinérance qui est là. Et je trouvais que c'est remarquable, en fait, tu vois. Parce qu'ensuite, ils font des événements tous les mois. Il y a un groupe événement qui s'appelle ça un pay-per-view. Et je trouvais ça très impressionnant. Et je trouve que Blizzard aurait pu sans doute s'inspirer de ça, tu vois. Après, je suis pas expert dans le sujet, mais il faut regarder la WWE pour comprendre justement la capacité d'itinérance de cette organisation qui est quand même assez incroyable de voir cette prouesse là. Donc, c'est pas impossible que Blizzard réussisse à faire quelque chose comme la WWE, qui a sans doute plus de moyens quand même que Blizzard, faut le rappeler.
Oui, et alors c'est très drôle que tu dis ça, parce que j'en ai regardé plus jeune, moi, la WWE, et j'ai mis beaucoup de temps à réaliser, alors déjà que c'était chiqué, et surtout à réaliser que c'était pas au même endroit à chaque fois.
Ouais, c'est fou.
Et en fait, c'est en m'y remettant un peu plus vieux, et en regardant des replays et tout, et on te dit, la foule dans telle ville choquée, je dis, mais comment ça dans telle ville ? C'est pas toujours au même endroit ? Ah ben non. C'est vrai, tu le soulignes assez bien. On a l'impression que c'est partout pareil.
Après, ils disent oui, c'est qu'aux États-Unis et tout, mais c'est faux. Ils vont en Europe, ils ont des contacts en Europe.
Au Canada aussi, bon, c'est le même continent.
Au Canada, ils vont faire des tournées en Arabie Saoudite, etc. Donc il y a quand même un gros travail qui est fait.
Ouais.
Et c'est notamment quand ils changent de continent, c'est par des équipes externes à la WWE qui doivent organiser l'événement, etc. Donc je me dis que c'est pas impossible, ça s'est déjà vu. Et que Blizzard pourrait réussir à faire quelque chose comme ça.
Après, on parle d'une ligue qui est bien plus vieille et qui a beaucoup plus de moyens, je pense aussi, financiers,
évidemment,
matériels, tout ça. Mais c'est possible. Donc voilà, si jamais un jour, ça serait fabuleux qu'on ait les équipes qui rentrent sur leur musique, qui font leur petit show comme les catcheurs. Moi, j'adorais ça. Ouais, bien sûr. Ah, putain, trop bien. Du coup, t'as vu le retour de Edge ? Non, on dérive complètement.
un petit peu, tu disais musique ? Ah, j'espère vraiment qu'il y aura DJ Khaled pour faire les entrées.
À chaque événement, il y a l'itinérance aussi.
And another
alors,
one.
Non, pitié, non. Je l'ai déjà eu en preview du Super Bowl, là, c'était terrible.
C'est vrai que ça...
Allez, on a que trop digressé, mais c'est bien, on est toujours... En fait,
c'était dans le thème. Hein.
Oui,
le thème.
Et puis le problème, c'est que comme là, on est à moins d'une heure d'émission, on se sent complètement libre de raconter n'importe quoi, parce que de toute façon, d'habitude, on fait beaucoup plus. On est désolé pour tout ça, mais on espère quand même que ça vous intéressait. Et on va se dire tout de suite à la semaine prochaine, puisque bah voilà, maintenant c'est reparti pour de bon. On vous débriefera tous les matchs de cette semaine, et on fera, comme l'année dernière, hein, débrief puis preview de la semaine suivante. Les petites consignes d'habitude, hein, vous savez que vous pouvez nous retrouver à peu près partout où il y a des podcasts écoutables. Hein, donc voilà, là je prends dans ma liste au hasard. Spotify évidemment, Castbox, tiens Castbox, je ne parle pas assez de Castbox. Podbean, Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast, enfin bref, c'est la fête partout.
Les
reviews à Apple Podcast, mettez 5 étoiles comme toujours. N'hésitez pas à nous suivre, on est sur Twitter @NerfsThisCast pour le podcast. Les chroniqueurs sont évidemment sur Twitter aussi. Atao, c'est Atao_LBC. Et pourquoi c'est dit ça, c'est pas vrai. À chaque fois c'est l'inverse, je me suis gouré. C'est Atao_LBC_, non
c'est Atao_LBC.
Du bas LBC, exactement.
Ah putain. Pourquoi j'ai été persuadé de me gorer? Bref. Atao underscore LBC, Chabaloutre pour Chaba, Raoul VDG pour moi-même, et j'ai dit NerfDiscast pour le podcast. Merci encore de nous avoir écoutés, c'était l'épisode 75 et on est très 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 content de pouvoir reprendre cette saison 3 avec vous. Peut-être la dernière, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, on est là pour cette saison et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!
Heroes never die.
Nerf this!